Cercavo la grande bellezza. Ma non l'ho trovata.
That's funny. That plains dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor d'étoiles plein les yeux. Pour ce 20e numéro, oui déjà, c'est non pas un mais deux films qui sont projetés sur la toile sous les yeux attentifs et connaisseurs de Clément et Mathias qui m'accompagnent aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Rémi.
Bonjour Rémi.
Et cette semaine, nous restons en France. Alors, avant de nous pencher sur le dernier film d'André Téchiné, nous commencerons avec L'avenir de Mia Hansen-Love. L'avenir pour Nathalie semblait assez clair et monocorde. Le prof de philo, impliqué à fond dans son travail, marié à un autre prof de philo avec qui elle a eu deux enfants. Elle passe son temps libre à éditer des essais ou à s'occuper d'une mère à demi folle. Mais son mari la quitte. Ses enfants sont grands, sa mère meurt, sa maison d'édition la lâche. Et face à cet avenir et ses évidences qui volent en éclats, c'est une liberté nouvelle qui s'ouvre pour la quinquagénaire. Liberté qui s'incarnera en Fabien, son ancien élève chouchou, brillantissime, normalien, anarchiste et nouvellement installé dans le Vercors pour y élever du bétail. L'avenir, ce sont ses angoisses, sa perte de repères et toute cette béance soudaine qu'il s'agit de meubler à nouveau pour redonner un sens à sa vie. Je m'arrête ici et me tourne vers vous, Mathias et Clément. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors, si je devais définir le film, ce serait d'abord un film français. Tout ce qu'il y a de plus français.
Ça oui.
Et non, mais avec voilà, un milieu petit bourgeois, intellectuel, parisien, avec des grandes bibliothèques, et dont les livres sont partie prenante de tout le film, donc dans une veine très nouvelle vague, cinéma français, tout ce qu'il y a de plus petit bourgeois, avec un côté aussi narratif ou une sorte de tranche de vie sans fin vraiment définie. Mais en même temps, ça marche. Enfin, ça marche parce qu'il y a de bons acteurs, il y a bon, un pari un peu de carte postale, mais qui est agréable à regarder. Le film se passe et on passe pas un mauvais moment.
Alors Clément, un mauvais moment ou pas ?
On passe peut-être pas un mauvais moment, mais je suis pas sûr qu'on en passe un bon en fait. Enfin, moi, c'est mon ressenti, c'est-à-dire que j'ai trouvé le film long, alors qu'il ne dure qu'1h40. Je l'ai trouvé assez décousu aussi, enfin... Il se passe des choses, voilà, la mère qui fait une énième tentative de suicide, le père qui trompe sa femme, voilà, il se passe des trucs sans vraiment de lien entre les différentes choses. Mon horizon d'attente a été complètement déçu, puisque moi je m'attendais à voir une romance entre Isabelle Huppert et puis son jeune premier. Donc à ce niveau-là, j'ai été extraordinairement déçu.
Mais non.
Oui, non. Moi, j'ai été extrêmement déçu. Et puis, merci le coup de la ferme anarchiste dans le Vercors parce que le Larzac, c'était devenu trop commun. Enfin, merci, quoi. Voilà.
Alors moi, je suis plutôt du côté de Mathias.
Moi aussi, je suis plutôt du côté de Mathias.
Mais... D'accord, mais t'as bien raison. Mais en voyant ce film, en effet, un énième film français avec des intellos et un côté carte postale, un énième film avec des bons acteurs qui jouent bien et une mise en scène aux petits oignons, un très très joli film, encore un. Et en fait, non, c'est quand même plus que ça, parce que comme tu dis Mathias, ça fonctionne. Et alors ça fonctionne beaucoup grâce au jeu d'Isabelle Huppert, qui est une actrice absolument monumentale, mais la mise en scène de Mia Hansen-Love est, je trouve, très très fine et pour moi ça fonctionne vachement bien aussi, ça dépasse justement ce côté carte postale et ce côté on place une ferme dans le Vercors parce que ça fait bien dans le paysage, et je trouve que tous ces éléments finalement prennent sens et la façon dont Mia Hansen-Love arrive à refermer le film sans trop le refermer non plus finalement donne un sens qui me semble intéressant à tout ce film.
Oui, parce que oui, tu te plaignais de la ferme dans le Vercors, mais ça se tient quand même dans le film, parce que le film s'ouvre sur une grève étudiante. Et y a tout ce lien thématique qui est tissé dans tout le film sur l'engagement de personnes intellectuelles au sens très large, des personnes qui ont un bagage, universitaire assez fournie. Elle, on comprend qu'elle était engagée dans les mouvements communistes dans les années 80, en gros. Elle en est revenue, parce que bah, voilà, elle s'est installée avec un mari qui, lui, est pour le coup très... voilà, l'incarnation du professeur de chaire supérieure, très, très sérieux et...
Très caricatural aussi.
Enfin, oui, très caricatural.
On a quand même eu un plan où on le voit sortir d'Henri IV en cravate. Bon.
Et ça existe
mais
aussi.
C'est un plan où il sort d'Henri IV en cravate et où d'un coup, la vie lui fait un croche-patte quand même.
Oui,
bien sûr, mais bon.
Il y a toujours cette forme de va-et-vient, d'aller et retour entre un ordre perdu et une forme de déséquilibre qui semble voué d'une certaine façon à perdurer. Oui. C'est peut-être justement un film sur ce déséquilibre. Tous ces objets un peu bancals, ces bouquets de fleurs qu'on n'arrive pas à mettre dans la poubelle. Et même Isabelle Huppert, qui, dans sa façon de se déplacer, dans ses mouvements, ça marque de façon très, très intelligente ce côté complètement désorienté.
Non, mais oui, c'est intéressant de ce point de vue, parce que oui, c'est la perte de repère complète, parce que par rapport, je reviens toujours sur le Vercors, elle voit son ancien élève qu'elle adulait, parce que c'est un élève brillant, et elle le voit continuer des luttes qu'elle a terminé, elle, parce que du coup, elle le dit clairement, elle a fini ce moment révolutionnaire. Elle, voilà, elle dit que son métier, c'est d'être prof, c'est de faire réfléchir des élèves, c'est pas forcément d'aller faire la révolution. Et elle est face à un mouvement de communauté autonome qu'elle ne comprend pas, et auquel elle a de la sympathie, mais auquel elle n'adhère pas, en fait, finalement. Et nous aussi, en tant que spectateurs, il y a une forme quand même assez, une forme de satire de ce milieu-là. Voilà, la révolution. Et je trouve que le film, d'un point de vue social, est quand même assez, assez pertinent. Et pas juste, on met une ferme dans le Vercors, parce que ça fait joli.
J'ai vraiment l'impression que j'ai trouvé ça hyper caricatural. Ne serait-ce que tous ces moments intellectuels, en fait, dans le film, sont coulants. Moi, je me suis emmerdé en les écoutant.
Je trouve justement qu'il n'y a pas de lourdeur dans ces moments qui pourraient faire pensum assez facilement.
Moi, je trouve qu'ils font pensum, justement.
Alors après, oui, c'est une question de ressenti, mais justement, j'avais l'impression que c'était placé intelligemment. Enfin,
Le côté qui se fait, enfin tout ce qui se fait autour de l'intellectualisme, c'est très incarné parce que c'est des livres. Et c'est tout le rapport tu m'as volé mes Lévinas. Je sais pas. Et voilà, il y a tout ce côté très concret, en fait, de voilà, c'est quoi des gens qui sont des intellectuels, c'est des gens qui ont des livres et des gens qui ont une bibliothèque, et des livres, ça circule, c'est marchand, ça, il y a un côté très incarné, en fait.
Alors, en parlant de la perte de repère d'Isabelle Huppert, il y a aussi un thème qui finalement traverse le film en filigrane et sans jamais se poser vraiment frontalement. C'est la question de l'amour et de la séduction aussi. Parce que, alors, il y a cette forme d'impossibilité de l'amour pour Isabelle Huppert. La très légère rupture qui se manifeste à un moment lorsqu'elle est agressée dans la rue par cet homme qui la suit depuis le cinéma, mais rupture qui complètement, complètement inaboutie, forcément. Mais ce que tu disais, assez intéressant, Clément, c'est-à-dire que tu t'attendais à une romance avec ce jeune homme, et c'est présenté comme ça dans la bande-annonce, et c'est présenté comme ça dans le film, parce qu'il l'attend à la fin des cours, comme un petit ami vient attendre sa copine à la sortie d'un cours.
Il y a quand même cette scène où il se balade au parc, et où elle dit « Oui, non, mais de toute façon, je me remarierai pas, machin. Oui, mais si, tu vas en trouver un. Ouais, tu crois que je vais en trouver un de mon âge. Mais non, t'en trouveras un plus jeune. Hein ?» Wink, wink, wink. Enfin bon, merci. Et par contre, là, un moment où j'ai trouvé le film assez intéressant, c'est ce moment où elle s'engueule avec son jeune premier dans le Vercors, et où il lui dit oui, mais toi, de toute façon, t'as un mode de vie petit bourgeois. Et à la fin, elle va se mettre à pleurer dans sa chambre, dans son lit. Là, je me suis dit, ah, là, c'est peut-être intéressant, on va peut-être voir ce que ça va donner. Est-ce qu'elle pleure parce qu'il l'a remis en cause son mode de vie, ou est-ce qu'elle pleure parce que là, il lui dit en gros, non, mais de toute façon, on sera jamais ensemble. Moi, je l'ai un peu senti comme ça. Et. J'ai été déçu aussi à ce niveau-là.
Mais je pense qu'il y a une forme de séduction très, très platonique dans leur débat. Je pense qu'il y a quand même une dynamique de séduction entre ces deux personnages, même si c'est voué à rester dans les sphères éthérées du livre, justement. Et cet échange de livres qui se prête et qui s'offre perpétuellement, il y a quelque chose de presque un érotisme du livre dans ce...
Oui. Je trouve qu'il y a aussi le rapport de séduction, mais aussi les rapports d'admiration et les admirations qui se brisent Parce qu'on peut imaginer que dans l'amont du film, on avait quand même une relation prof-élève, où l'élève quand même en admiration devant la figure de la prof, et du coup l'admiration se brise parce qu'il se rend compte que bah, cette prof-là, c'est une petite bourgeoise. Et inversement, cette femme-là, qui était en admiration devant le premier de la classe, avec un passé difficile, qui venait d'un milieu pas forcément très facile, et qui quand même avait une sorte de facilité intellectuelle et une forme de brillance, et qui elle se rend compte que ce type-là se retrouve un peu dans des écueils d'intellectuels de gauche, en fait, qu'elle a passé et qu'elle, elle ne supporte plus. Et donc ce jeu de rapport et d'admiration et de séduction qui se brise un peu.
Et ce jeu de rapport entre ces deux générations qui est là d'abord parce que c'est aussi un film sur le temps qui passe et cette volonté perpétuelle de filmer la vie comme elle est à son rythme par la structure en tableau qui est assez caractéristique, ces tableaux peut-être un peu décousus qui se succèdent. Et puis, il faut peut-être terminer avec la figure de la mère, cette insupportable mère, parce que c'est non pas un film sur deux générations, en fait, il y a bien une troisième génération,
oui, trois générations.
Et la génération de la mère est assez intéressante, la façon dont elle est montrée. Et autre chose d'assez intéressant, qui fait office un petit peu de filigrane dans ce film aussi, c'est le chat, qui est vraiment... Non, mais c'est vraiment oui, c'est le vrai. Chat qui porte toute la dynamique temporelle du film, et l'égarement du personnage principal.
Et voilà, c'est intéressant, non. C'est un peu l'héritage aussi, parce que voilà, c'est un peu le seul héritage qu'elle a de sa mère, ce chat, et c'est un truc dont elle ne veut pas. Enfin, c'est, clairement, le rapport à la mère, c'est quelque chose dont on veut se défaire tout de suite, parce que c'est un parasite. Enfin, les deux sont des parasites, clairement. Enfin, elle lui parasite sa vie, et juste après sa mort, en fait, c'est... Et oui, je trouve ça intéressant de voir le rapport de conflit absolument... qu'il n'y a pas du coup inversement entre Isabelle Huppert-mère et ses filles à elle, qui sont des personnages assez absents du film.
Assez plats, oui.
Oui, non, pas plats, c'est juste qu'ils n'ont pas de...
Oui, ils ne sont pas très présents, oui.
Mais qui sont l'occasion d'une dernière scène, on peut le dire quand même, assez splendide et assez fine. Alors tu me contexteras peut-être l'adjectif, Clément, que moi, personnellement, j'ai trouvé d'une finesse assez intéressante dans la pudeur de la caméra qui n'insiste pas, qui se contente juste de frôler cette dernière scène avant de partir sur le générique.
Ouais, disons que, encore une fois, moi, j'ai eu le sentiment que cette dernière scène était la dernière scène, mais la scène précédente aurait tout aussi bien pu être la dernière. On aurait pu en mettre une autre de l'autre côté, ça aurait aussi été la dernière scène, le générique aurait pu se lancer. Si tu veux, ce que je reproche à ce film, c'est que c'est un film sur lequel je pense qu'il est intéressant de parler, mais il y a un élément perturbateur qui arrive au bout d'une demi-heure de film, le moment où son mari la quitte, alors que c'est quand même l'élément perturbateur du film. Il n'y a pas vraiment de fin, et je me suis quand même ennuyé.
Mais on laissera ça à nos spectateurs de contraint. Je suis désolé, tu as quand même perdu, Clément. Et on passe donc au deuxième temps de cette émission avec « Quand on a 17 ans » d'André Téchiné. Tom et Damien sont dans la même classe de terminale dans les Pyrénées et ne se supportent pas. Régulièrement, ils se battent sans raison apparente, animés d'une haine incompréhensible. Mais quand la mère de Tom tombe enceinte, la mère de Damien, médecin, propose à Tom de vivre chez elle jusqu'au bac pour lui épargner ses 3 heures de trajet quotidienne. Et cette confrontation entre les deux adolescents attise les haines et les défiances, et surtout les transforme, les modèle, les fait grandir, jusqu'au dévoilement d'un sentiment beaucoup plus profond sous toute la brutalité qui les oppose. Alors Mathias, Clément, deuxième étape, quel est votre avis sur ce film ?
Alors moi, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai trouvé très beau, très émouvant, très juste aussi dans l'évolution de cette relation entre ces deux garçons. Je l'ai trouvé assez juste aussi dans sa structuration, parce qu'il y a 3 temps finalement, ça correspond aux 3 trimestres de l'année scolaire, et ça marche bien. Visuellement, ça marche aussi parce que on a premier trimestre, on est en fait aux vacances de Noël, deuxième trimestre où c'est toujours un paysage très enneigé parce qu'on est dans les Pyrénées et le printemps c'est plutôt en mai, et puis le dernier trimestre où là on a des paysages qui ont complètement changé. Il y a une exploration de ces paysages aussi qui va avec l'exploration de leurs sentiments. Enfin, les deux gamins explorent un peu ces montagnes comme ils s'explorent eux-mêmes. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très beau, très beau.
Mathias ?
Oui, pareil, pour la question de l'espace, que la première séquence du film est assez significative, c'est le personnage de Thomas qui marche dans la neige pour aller jusqu'à l'arrêt de bus, qui va le mener jusqu'à l'école, et voilà toute une pérégrination comme ça qui marche, voilà, parce que du coup, les chemins qu'on prend sont un peu sinueux, on se perd dans la forêt, on explore différents paysages, avec toujours ce rapport entre la campagne, la forêt, la ville, et je trouve que voilà, il y a un chemin qui se fait, qui est pas linéaire du tout, et qui correspond bien aussi à l'avancée dans le temps de l'évolution aussi du rapport entre ces personnages. Et je trouve que le film est très bien construit, très bien porté par les deux acteurs principaux, et aussi Sandrine Kiberlain, qui a quand même un rôle assez développé et qu'elle tient de bout en bout. Parce que c'est quand même un de ses mérites, parce que c'est quand même un personnage qui traverse tout le film. Alors que les deux garçons ont des, quand ils sont pas ensemble, généralement on les trouve assez séparément, et elle, pour le coup, elle fait le lien entre eux, bon, pendant tout le film,
et puis elle s'essouffle pas, hein.
Et elle s'essouffle pas, et ça c'est vraiment bien. Et après il y a aussi, bon, c'est une forme de romance aussi, il y a les écueils de l'amour adolescent, enfin, voilà, le titre c'est quand même quand on a 17 ans, il y a Rimbaud qui est déclamé au début du film, avant la chute, enfin, la chute de Damien, provoquée par Thomas. Donc voilà, il y a ce côté un peu fleur de printemps, mais qui fait du bien quand même.
Ben, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, et les trois personnages principaux sont vraiment très très bons. Et alors tu disais Sandrine Kiberlain, qui c'est vraiment elle qui porte ce film tout le long, et elle est vraiment époustouflante dans son rôle. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de discussion là-dessus. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Pareil, les deux jeunes acteurs sont vraiment très très bons, et la mise en scène est assez intelligente sur la façon dont est amenée la tension entre ces trois personnages. Après, alors c'est un film que j'ai aimé, mais je regrette. Je regrette quelques facilités, quelques petits écueils qui sont rencontrés, comme par exemple, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de placer ce personnage du père, qui pour moi est un personnage secondaire un petit peu creux, et dont le rôle de faire valoir fonctionne pas.
Bon, disons qu'il sert à avoir un ressort dramatique majeur aux trois quarts du film.
Mais ressort dramatique dont on peut se demander s'il était si nécessaire que ça.
Moi, je l'ai trouvé très beau. Enfin, j'ai trouvé disons que je l'ai trouvé très juste aussi, parce que bon, on va pas dévoiler ce ressort dramatique en question, mais. J'ai trouvé que ça correspondait bien à une expérience qu'on peut avoir de la chose, et en cela que, avec l'impact que ça a aussi sur des adolescents, que ça peut avoir sur des adolescents, je sais pas, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé intéressant ce ressort narratif et émouvant.
Ça, et puis peut-être quelques scènes un petit peu lourdingues dans la suggestion, quand toutes ces scènes qui reposent sur des répliques un peu faciles, la mère qui arrive et qui dit « Oh, vous bloquez tous les deux sur la même chose !» Ou alors cette équation que l'un n'arrive pas à résoudre, l'autre vient et la résout à un tournement, ce moment où ils sont tous les deux en train de travailler leur philo, et où il y a cette espèce d'échange sur la philosophie du désir qui est d'une lourdeur abominable.
Mais c'est assumé comme...
Alors celle-là est assumée, d'autres scènes dans ce genre-là ne le sont pas forcément, et je trouve ça un petit peu dommage. Cela dit, l'impression générale est quand même très très positive, c'est vraiment un bon film. Hein.
Je reviens juste sur le personnage du père. Je trouve que finalement, enfin, il y a le trio de tête, mais je trouve que les personnages de second plan sont pas forcément les mieux travaillés et les mieux incarnés. Je trouve que par exemple l'acteur qui joue le père est pas un très bon acteur. J'ai pas été très convaincu par sa prestation. Pareil pour le personnage du principal, par exemple, qui est vide, mais vraiment vide,
il apparaît comme ça, il apparaît 3 minutes dans le film.
Et après du coup, je trouvais que l'agencement des couples de parents, et pour le coup le ressort dramatique qu'il y a avec le père de Damien, il y a des effets de symétrie qui, je trouve, sont intéressants pour montrer quand même, parce que finalement, au début du film, je me suis dit, tiens, c'est un film social. sur une fracture de classe, de couleur et de, parce que voilà, on a le Thomas qui est un enfant d'une forme d'agriculture qui est en voie de perdition dans les montagnes avec des parents assez absents finalement parce que accaparé par un travail. En plus, il détonne dans le paysage parce que il a une coupe, il est métisse dans un paysage très blanc et dans un paysage aussi de la population très blanche. Alors qu'on a Damien, des enfants de
médecin
et militaire.
Mais militaire officier.
Officier, petit bourgeois, très bien installé, avec des parents qui l'aiment. Qui sont même si le père est absent, il est très présent parce qu'il y a la vidéo
toute la relation entre eux
en vidéoconférence, voilà. Des parents qui l'aiment beaucoup, qui sont très attachants. Donc voilà, quelqu'un qui est très entouré, quelqu'un qui est face à quelqu'un qui est seul, et du coup la symétrie dans les relations de parenté, je trouve ça intéressant.
Après, un truc sur lequel on s'accordera, je pense, c'est le traitement de l'amour qui est assez intéressant et assez fin dans l'ambiguïté qui est perpétuellement laissé sur la façon dont l'amour est traité, y compris dans des scènes un petit peu annexes. Par exemple, ce rêve érotique de la mère, où on ne distingue pas vraiment qui est l'homme.
Oui.
Et y a cette ambiguïté qui est vraiment présente du début à la fin du film, dans les rapports entre les personnages, sur la nature du sentiment et la nature du désir. Je sais pas si... Mm.
au point de se demander s'il n'y a pas une rivalité entre Damien et sa mère. Au bout d'un moment, je me suis posé aussi cette question-là. Est-ce qu'il n'y a pas une rivalité d'ordre amoureuse entre Damien et sa mère sur le personnage de Tom, ouais.
Oui, parce que la mère, elle est quand même... on va le dire, qu'est-ce qu'il est beau ce garçon. Enfin, elle le répète quand même à une reprise. Puis même, il y a cette scène où il est tombé malade, Thomas est tombé malade parce qu'il a laissé la fenêtre ouverte toute la nuit. Et il y a la mère de Damien qui vient l'ausculter. Et puis où il commence à se battre après parce que Damien fait à Thomas, oui, ça t'a excité, hein, ça t'a fait bander. Enfin bon, c'est pas que suggéré, je veux dire, c'est aussi bien mis en avant.
Eh bien voilà pour Quand on a 17 ans, donc d'André Téchiné, qui est encore en salle pour quelques temps, ainsi que L'avenir de Mia Hansen-Love, même si nous étions un petit peu plus partagés.
Je crois en salle pour un peu moins longtemps, vu qu'il est sorti avant.
En effet. Je vous conseille malgré tout d'aller les voir tous les deux, n'en déplaise à Clément. Concernant les sorties de la semaine, le programme est encore une fois chargé. Je commence avec Mekong Stories de Phan Dong Di, qui nous transporte à Saigon au début des années 2000, où nous suivons Vu, apprenti photographe sillonnant la ville, Tang, serveur dans une boîte de nuit vivant de petits trafics, et Van, qui rêve de devenir danseuse. Réunis dans le tumulte de la ville, ils sont emportés par le tourbillon d'un monde en pleine mutation, comme nous le montre si bien le cinéma asiatique de ces dernières années. C'est sorti cette semaine et c'est en salle au Comédia, de même que Blind Sun, de Joyce Nashawati. La jeune réalisatrice enferme un sans-papiers solitaire dans une luxueuse villa grecque qu'il a pour mission de garder. Et c'est de ce soleil qui aveugle jusqu'au titre du film que naît l'angoisse qui confinera à la folie. Troisième sortie de la semaine, Un homme charmant, d'Ariel Rotter. À Buenos Aires, dans les années 1960, Luisa a du mal à se remettre du décès de son mari et de son frère, mort dans un accident de voiture. Sa mère l'encourage à refaire sa vie et à ne pas sombrer dans la déprime pour le bien de ses deux petites filles, et lors d'une fête, Luisa rencontre Ernesto, comptable et collectionneur d'art. Tous deux tombent immédiatement amoureux, mais Luisa est retenue par un souvenir encore trop frais, tandis qu'Ernesto, petit à petit, se fait de plus en plus pressant, voire oppressant. L'ambiance est inquiétante, le malaise s'installe, et cet homme charmant accapare peu à peu tout ce qu'il restait de cette femme brisée. Le film sort dans 7 salles en France, dont le Cinéma Opéra à Lyon. Je termine avec le festival Cinéma du Sud du 27 au 30 avril à l'Institut Lumière, qui explore les cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient et rencontre ses cinéastes. Pour plus de renseignements, je vous invite vivement à vous rendre sur le site de l'Institut. C'est l'occasion de découvrir un cinéma incroyablement actuel, vivant et prometteur. L'étoile plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Mathias et à Clément pour m'avoir accompagné pour ce numéro et à très bientôt sur Transistor.